Bismillahirrahmanirrahim. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons lire le document ou encore l'ouvrage intitulé Al-Hakim al-Shara'i fil Islam, que j'ai traduit par le statut du gouverneur tel que légiféré en Islam. Et l'auteur veut par cet ouvrage éclaircir la méthodologie de Al-Sunnati wal-Jama'a, c'est-à-dire les gens de la Sunna, sur la gouvernance et le jugement relatif à la révolte contre le dirigeant injuste. L'auteur, il dit, qui est le cheikh Qasim Omar Haroun, le Gouran, Tchadien, qu'Allah le préserve, et dit Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son assistance et son pardon, et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et le mal de nos actes. Celui qu'Allah guide, lui ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, lui ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah. J'atteste que Muhammad est son serviteur et son envoyé. Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Surat la famille d'Al-Imran, verset 102. Oh, homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un être, c'est-à-dire Adam, et a créé de celui-ci son épouse, à savoir Hawa, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Sourate les femmes, verset 1. Oh, vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'Allah améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Sourate l'Equalisé, verset 70 à 71. Introduction. L'auteur, à savoir le cheikh Abu Omar Qasim Omar Haroun, il dit suite à quoi? Cher noble lecteur, qu'Allah me facilite ainsi que toi vers ce qu'il aime et agrée. Qu'Allah m'honore ainsi que toi avec le monothéisme pur et la sunna, entre parenthèses, traduction prophétique. Qu'Allah me fasse mourir ainsi que toi dans le monothéisme pur et la sunna. Certes que certains prédicateurs s'affiliant à la sunna et élévateurs de l'emblème de la salafia dans la République du Tchad autorisent le fait de sortir contre le gouvernement injuste et pervers sans aucune condition et principe à l'appui. Comme d'ailleurs, ils autorisent les manifestations et grèves contre le gouvernement, cautionnent la rivalité à l'endroit du gouvernement injuste et cautionnent le fait de diffamer en public un dirigeant avec un courage étrange et considèrent le fait de critiquer le gouverneur injuste en dénombrant ses erreurs sur la chair comme étant l'une des meilleures actions qui puisse rapprocher l'homme de son Seigneur. C'est pourquoi j'ai vu qu'il m'était obligatoire d'éclaircir la croyance des gens de la sunna et du consensus au sujet de l'imama, entre parenthèses, le dirigeant gouverneur. Et le jugement de sortie, c'est-à-dire se rebeller, autant pour moi, contre un dirigeant musulman. Et je vais mentionner sur ce sujet les avis juridiques des érudits enracinés dans la science parmi les anciens et les contemporains. Je dis dans ceci, demandant l'assistance d'Allah, exalté soit-il, espérant la réussite et l'exactitude. Ça, c'était le premier point concernant l'introduction. Le deuxième point, l'auteur, il intitule en disant l'obligation de la conformité au test de la révélation. Chers frères en Islam, nous sommes tous serviteurs d'Allah, le Très-Haut. Et le serviteur pieux ne sort pas du cadre aimé par son Seigneur. Il nous incombe donc de se conformer au test légiféré et de suivre les traces de tes prédécesseurs sur tout ce qu'on aime et répugne. Car tout bien se situe sur le suivi de tes prédécesseurs et tout mal se situe dans l'innovation des khalaf, c'est-à-dire ceux qui sont venus après. Celui qui va se conformer au livre d'Allah, entre parenthèses le Coran, et à la sunna, entre parenthèses la traduction prophétique, et va suivre la voie des croyants, sera sauvé et préservé de tout égarement et toute tentation, tant apparente que cachée, et marchera sur le chemin clair dont sa nuit est semblable au jour. Ne dévie ce chemin que celui qui est égaré. Et par la suite, l'auteur, il a mentionné un sous-titre ici en disant l'unanimité sur la nécessité de nommer un gouverneur sur les musulmans. Et le cheikh Abu Omar Qasim Omar, il dit, oh frère, Certes que la présence d'un gouverneur, entre parenthèses, dirigeant, dans un pays quelconque parmi les pays de ce bas monde, qui pourra diriger leurs affaires religieuses et mondaines, maintenir leurs intérêts religieux et mondaines, et par qui Allah préservera les limites et frontières, est un élément indispensable chez les humains. Bien même que ça soit une nécessité ardente et un besoin fondamental dans la vie mondaine. Les gens de la Sunna sont unanimes sur l'obligation de la nomination d'un dirigeant sur les musulmans. L'unanimité des savants a été énumérée à ce sujet par Al-Ma'urdi dans son ouvrage Al-Ahkam al-Sultaniya et Ibn Hazm dans son ouvrage Al-Fasl fi al-Milal wal-Ahwa wal-Nihal, d'où il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. L'ensemble des gens de la Sunna sont unanimes, ainsi que l'ensemble des Moudia, l'ensemble des Chiites et l'ensemble des Khawarij sur l'obligation d'installer un gouverneur, entre parenthèses, dirigeant, et sur le fait qu'il soit obligatoire à la nation de se soumettre à un dirigeant équitable, qui pourra établir sur eux les lois d'Allah. Il est gouverné avec les lois de la législation apportées par l'envoyé d'Allah, prière et salutation d'Allah sur lui. Excepté parmi les Khawarij, les Nejdad, car ces derniers disent que l'imamah n'est point une exigence sur les gens et qu'il leur appartient juste d'être véridique et équitable entre eux. Fin de citation. Et aussi la règle fondamentale de la jurisprudence connue qui stipule que ma la yatimu wajibu illa bi fawal wajib. C'est donc une obligation ne peut être parachevée sans elle devient de cette manière aussi une obligation. Toute personne de raison cerne que les intérêts mondains et religieux ne peuvent être dans la rectitude que si un gouverneur, entre parenthèses, dirigeant est installé, afin que ce dernier puisse gérer leurs intérêts. Au contraire, c'est le désordre qui régnera au point où le fort anéantira le faible, les honneurs seront transgressés, les biens d'autrui seront consommés illicitement, etc. Un poème du temps de l'ignorance dit: les gens ne sauront améliorer leur situation dans le désordre et sans un pinacle. Point de considération à ce pinacle s'ils sont gérés par les ignorants parmi eux. L'imam Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, dit: le groupe des gens constitue la corde d'Allah, accrochez-vous à ce cordon solide pour tous ceux qui s'y rapprochent. Combien de fois Allah, de par un dirigeant, repousse un obstacle résultant ainsi à une miséricorde dans notre religion et dans notre vie mondaine. N'y était le khalifa, entre parenthèses, la gouvernance, nos routes seraient sécurisées. Et les faibles d'entre nous seraient dépossédés par les forts parmi nous. Et notre sous-titre que l'auteur a énuméré ici en disant « Processus de désignation d'un gouverneur en islam ». Oh frères, après qu'il vous ait paru clair la nécessité de nommer un dirigeant à la tête des musulmans, il appartient donc de connaître qui est le gouverneur légiféré d'une nation dont l'écouter et le pays nous incombe dans l'obéissance d'Allah et non dans sa désobéissance, et de ne pas se révolter contre lui. Oh mon frère, qu'Allah te préserve, sache que le gouverneur qu'il faut obéir de façon obligatoire dans l'obéissance d'Allah et non sa désobéissance, et qu'on doit concevoir de façon obligatoire le serment d'allégeance prêté à son égard, sa désignation comme gouverneur en islam se fait par l'une des trois manières. Petit 1, première manière, que l'ancien gouverneur désigne qui va gouverner après lui. Petit 2, deuxième manière, que les décisionnaires choisissent d'eux-mêmes un gouverneur. Petit 3, troisième manière, que ce dernier prenne le dessus, c'est-à-dire le commandement, sur vous à travers son arme et sa force, entre parenthèses, coup d'État. La Sunna prophétique est celle d'Abu Bakr et Omar, qu'Allah se satisfait d'eux, ainsi que le consensus des gens de la science approuve ces trois manières. Quant à la première manière, ceci a été appliqué par le véridique de cette communauté, entre parenthèses, Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah se satisfait de lui. Lorsqu'il désigna Omar de le remplacer après lui, il est rapporté de façon prouvée dans les recueils de Al-Bukhari et Muslim, d'après Abdullah ibn Omar, qu'Allah se satisfait d'eux, qu'il a été dit à Omar vers la fin de son khalifa: ne désignes-tu pas qui va te succéder après toi? Omar répondit: si je le fais, ce que,
Avant moi l'avait fait celui qui est meilleur que moi, c'est-à-dire Abou Bakr. Et si je laisse sans le faire, ce que avant moi l'a laissé celui qui est meilleur que moi, c'est-à-dire l'envoyé d'Allah, prière et salutation d'Allah sur lui. Et quant à la deuxième manière, l'a fait Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, lorsqu'il choisit 6 personnes parmi les compagnons, afin que les décisionnaires, entre parenthèses, conseil des sages, de leur tour puissent choisir de ces 6 une personne parmi eux qui va les diriger. Ces décisionnaires, après s'être concertés, ont décidé de choisir Othman, Ibn Affan, qu'Allah soit satisfait de lui, et les gens lui ont fait serment d'allégeance. Et quant à la troisième manière, les gens de science ont relaté le consensus à cela. On rapporte aussi des compagnons, un grand nombre de récits à ce sujet. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte d'après Abdullah ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'il a légitimé l'écoute et l'obéissance à Abdul Malik Marwan. Bien que ce dernier ait pris le commandement par force et dominance, le chef de l'islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son ouvrage, Minhaj al-Sunna al-Nabawiyya, il dit, l'imamat fut légiféré par approbation des fortes personnalités. Je répète, Ibn Taymiyyah dit, l'imamat fut légiféré par approbation des fortes personnalités. Et l'homme ne peut être dirigeant que par approbation des fortes personnalités qui sont ceux dont, corrélativement, leur obéissance à l'endroit de ce dirigeant pourront faire réaliser l'objectif. L'objectif de l'imamat se réalise par la puissance et l'autorité suprême. Si les gens font allégeance à ce dirigeant, la puissance et l'autorité suprême aura lieu et il deviendra le dirigeant. Fin des citations. L'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est l'imam des gens de la Sunna du consensus dans son ouvrage ou sur le Sunna, à savoir les fondements de la Sunna, il dit, et celui qui se rebelle contre un dirigeant des musulmans, celui qui se rebelle contre un des dirigeants des musulmans, de ceux autour desquels les gens se sont réunis, et donc ils ont accepté le khalifa, que cela soit fait par agrément ou par force, il dit, une telle personne s'est certes rébellée contre le pouvoir. Et elle a contredit les récits confinés du messager d'Allah, prier et salutation d'Allah sur lui. Il dit par la suite, si ce rebelle mourait dans cet état, il mourrait comme quelqu'un de l'époque de l'ignorance, de la djahiliya. Il dit par la suite, il n'est autorisé à personne de combattre le gouverneur ou encore le sultan, le dirigeant, ni de se rebeller contre lui. Celui qui le fait est un innovateur qui n'est pas sur la sunna. Et l'auteur, à savoir le cheikh Abu Omar, Qasim ibn Omar, il dit par la suite, et parmi les érudits qui ont énuméré le consensus des savants à ce sujet, on peut citer l'imam Ali ibn Madini, ou encore Ali al-Madini, ibn al-Madini, comme cela est mentionné dans l'ouvrage de Sharh. L'ouvrage Sharh Usul al-Itiqad Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et également l'imam ibn al-Batta al-Uqburi, l'imam ibn al-Batta, autant pour moi, dans son ouvrage le Sharh de Sahih Muslim. Et également l'imam ibn Hajar dans son ouvrage Fath al-Bari. Et également l'imam ibn al-Qudama dans son ouvrage Lumad al-Itiqad. Et également l'imam Abi Zayd al-Qayrawani dans son ouvrage Al-Jami. Et également n'est-ce pas l'imam Muhammad ibn al-Wahhab dans son ouvrage. Ou encore dans l'ouvrage Ad-Durar al-Saniya. Et cette croyance est aussi formulée par l'imam Malik, qui est imam d'Abi Hijra, que vous connaissez, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et voilà pourquoi l'imam Ash-Shafi lui mentionne cela dans son ouvrage Al-Ikhtisam, où il dit, ce qui est approuvé, il dit n'est-ce pas, ce qui est approuvé est un fondement de la doctrine de l'imam Malik. Il a été demandé à Yahya ibn Yahya ce qui suit, dans la question qui a été demandée à Yahya ibn Yahya. L'allégeance était détestable? Il répondit non. On lui demanda, et qu'en est-il si ces dirigeants sont guides injustes? Il répondit en disant, Ibn Omar a fait l'allégeance à Abdul Malik ibn Marwan, alors que ce dernier avait pris le pouvoir par force. Il dit par la suite, l'imam Malik m'a informé que celui-ci, c'est-à-dire Abdul Malik ibn Marwan, dirigea une lettre à Ibn Omar, lui ordonnant d'écouter et d'obéir conformément au livre d'Allah et à la sunna de son prophète. Yahya ajouta, l'allégeance à un dirigeant qui prend le commandement par force ou coup d'état est meilleur que la division. Allahu Akbar. Il est mentionné dans l'ouvrage Adab al-Shafi de l'imam Ibn Abi Hatim, qu'Allah lui fasse miséricorde, que l'imam al-Shafi'i a dit, toute personne qui par force ou coup d'état prendra la gouvernance et que les gens se soumettent à lui est un dirigeant. Le chef de l'islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, lorsqu'une personne arrivera à imposer sa gouvernance à son peuple, de telle sorte qu'il l'obéisse de gré et de force, ce dernier deviendra donc leur dirigeant qui doit être obéi. Et en sous-titre, l'auteur également, il dit quelques preuves interdisant la rébellion envers les dirigeants. Le chef, il dit, faites que cette croyance est l'un des fondements chez les gens de la sunna et du consensus. Toute personne qui va les contredire dessus est un innovateur égaré, rebelle envers la sunna. Les savants l'ont mentionné dans les livres de croyance tels que Ibn Taymiyyah dans son ouvrage Al-Aqida Al-Wasitiyya et Al-Tahawiyya dans son ouvrage Al-Aqida Al-Tahawiyya et Al-Barbahari dans son ouvrage Sharh al-Sunna, également Muhammad ibn Abdul Wahhab dans son ouvrage Masail al-Jahiliyya et beaucoup d'autres, qu'Allah le fasse miséricorde. Après ceci, je vais énumérer les preuves venant du livre de la Sunna et des propos des plus prédécesseurs de cette communauté sur l'interdiction de se rebeller contre le dirigeant musulman, qu'il soit injuste ou pervers. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ya yalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u al-Rasul wa uli al-amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa al-Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawm al-akhir, dhalika khayrun wa ahsan ta'wila. » Allah le très haut dit, « Oh vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à ceux d'entre vous, musulmans, qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et meilleure interprétation et aboutissement. Sourate An-Nisa, les femmes, verset 59. Le savantissime, Al-Imam As-Sa'adi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son exégèse, par la suite, Allah nous ordonne de l'obéir et d'obéir à son messager et à ceux et ceux en se conformant à ses ordres ainsi qu'aux ordres, aux ordres de son messager, qu'ils soient des ordres obligatoires ou surrogatoires et en évitant leurs interdits. Allah nous ordonne aussi d'obéir aux détenteurs de commandements, qui sont les gouverneurs, les dirigeants, les muftis, entre parenthèses, les savants, car les affaires religieuses et mondaines des gens ne pourront être dans la rectitude qu'avec leur obéissance et la soumission à leur ordre. Par obéissance à Allah et par désir d'obtenir ce qu'il y a auprès d'Allah, à condition toutefois que ces dirigeants n'ordonnent pas ce qui constitue une désobéissance à Allah, auquel cas il n'y a aucune obéissance à une créature lorsqu'il s'agit de désobéir à Allah. Fin de citation. L'auteur dit par la suite, et dans la Sunna purifiée, nous avons un grand nombre de récits à ce sujet, parmi lesquels je cite, que Sahih Muslim, an Wa'il ibn Hujr, radiallahu anhu, qala sa'ala salamatu ibn Yazid al-Ju'fi, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, faqal, ya Nabi Allah, araita in qamat alayna umara'u, ومراوا يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. D'après Wa'il ibn Hujr, il dit que Salama ibn Yazid al-Jufi, qu'Allah soit satisfait de lui, a interrogé le messager d'Allah, prié salutation d'Allah sur lui, en disant, ô messager d'Allah, vois-tu, si nous sommes dirigés par des dirigeants qui nous demandent leurs droits, mais nous privent de nos droits, que nous ordonnes-tu de faire? Le prophète, prié salutation d'Allah, celui s'est écarté de lui. Mais, il lui a reposé la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est écarté de lui, et au bout de la deuxième ou troisième fois, Al-Ash'as ibn Qays l'a tiré. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez et obéissez. Car Il y a contre eux ce qu'ils ont fait, et il y a contre vous ce que vous faites. Rapporté par Muslim dans son recueil, numéro 1846. Deuxième référence. وفي صحيح وفي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم d'après عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم le prophète priait cette action d'Allah sur lui a dit vous allez faire voir après moi du favoritisme et des choses que vous allez réprouver. Subhanallah. Il dit quoi? Il dit, Prophète sallam, il dit que quoi? Que c'est que vous allez faire voir après moi du favoritisme et des choses que vous allez réprouver, c'est-à-dire parmi les actes de désobéissance à Allah. Et les compagnons de dire, ils ont dit, que nous en donnes-tu au messager d'Allah? Le prophète priait cette action d'Allah a dit, vous leur donnez le droit. C'est-à-dire, en les obéissant, non, sans vous rebeller contre eux. Donc elle a dit, mais ça, vous leur donnez le droit et vous demandez votre droit à Allah. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih numéro 7052. Le favoritisme, cela voudrait dire, comme l'a expliqué l'auteur, il dit, c'est-à-dire que certains dirigeants vont garder pour eux et leur famille injustement l'argent et laisser le peuple pauvre alors qu'ils ont droit sur cet argent. Troisième preuve, votre Sahih muslimin, عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعد أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أسمع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطيع دابح حذيفة ابن اليمان qu'Allah soit satisfait de lui, que l'envoyé d'Allah a dit, priez cette action d'Allah sur lui, il y aura après moi des dirigeants qui guideront loin de ma guidance et qui emprunteront une voie autre que la mienne. Parmi eux, apparaîtront des hommes au cœur des démons sur leur corps humain. Joseph a dit par la suite, que fais donc si je parviens à cette époque au messager d'Allah? Le prophète lui dit, écoute et obéis aux dirigeants, même s'ils te frappent, et prends ton argent, écoute et oublie, rapporté par Muslim. Quatrième preuve, parmi les récits de l'envoyé d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'auteur, il mentionne et dit, وَفِي صَحِيْهِ مُسْلِمٍ أَيْدًا عَنْ عَوْفِ مِنْ مَالِكٍ الْأَشْدَعِيِّ يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم يحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا قلنا يا رسول الله أفرم نابذهم عند ذلك قال لا ما قاموا فيكم الصلاة لا ما قاموا فيكم الصلاة لا من ولي عليه والي فرأوا يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة d'après Aouf ابن مالك الأشجعي قال الفدلي كل بروفيت بريفتاسيون d'Allah celui a dit, les meilleurs de vos gouverneurs sont ceux que vous aimez. Vous les aimez pour leur honnêteté et leur injustice et bon conseil. Il dit, les meilleurs de vos gouverneurs sont ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et qui vous aiment pourquoi? Pour votre obéissance, soumission et écoute à leur endroit. Ceux pour qui vous invoquez et qui invoquent pour vous. Et les plus mauvais de vos gouverneurs sont ceux que vous détestez. Détester pour quelles raisons? À cause de leurs injustices, leur dureté, perversité et trahison envers vous pour avoir mangé les biens injustement. C'est pourquoi il a dit, alayhi salatu wassalam, et les mauvais de vos gouverneurs sont ceux que vous détestez et qui vous détestent. Allahu Akbar. Pourquoi les saints vous détestent? Parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux dans leur perversité et injustice. C'est pourquoi il a dit, alayhi salatu wassalam, et les plus mauvais de vos gouverneurs sont ceux que vous détestez et qui vous détestent. Ceux que vous maudissez et qui vous maudissent. Nous avons dit au messager d'Allah, ne devons-nous pas les combattre par l'épée? Le prophète, présentation d'Allah sur lui, répondit en disant non, tant qu'ils accomplissent la prière. Et si vous voyez chez vos dirigeants quelque chose que vous détestez, alors détestez son acte et n'enlevez pas une seule main d'obéissance. rapporté par Muslim dans son Sahih, numéro 1855. Et cinquième preuve parmi les récits prophétiques, au fils Sahih Bukhari ou Muslim, à numéro Umar radiallahu anhuma, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qu'al, على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فيؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. D'après Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux, que le messager, le prophète, qui a pris cette question d'Allah sur lui, a dit, tout musulman doit obéir et écouter, bon gré, mal gré, sauf si on lui ordonne de désobéir à Allah, et si on lui ordonne de désobéir à Allah, qu'il n'écoute et n'obéit point, rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 7144 et Muslim dans son Sahih numéro 1839. Sixième récit parmi les récits prophétiques, Wa'an ibn Abbas, à un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qu'al, Man kariha min amirihi shay'an falyasbir, fa innu man kharaja min al-sultani shibran mata mitatan jahiliyatan. Bukhari ou Muslim. D'après Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète, prier cette question d'Allah sur lui, a dit, celui qui voit chez son dirigeant une chose qu'il déteste, qu'il patiente. Car, certes, celui qui sort d'un enfant de la tutelle du dirigeant, puis meurt, alors cette mort est une mort de la période pré-islamique. Rapporté par Bukhari dans son Sahih, numéro 7054. Et rapporté par Muslim dans son Sahih, numéro 1849. Et l'auteur, à savoir le cheikh Abu Omar Qasim Omar, il a également intitulé là un sous-titre d'où il dit « Les méfaits de la rébellion contre le dirigeant injuste ». Et ça c'est un point très important. Il dit « Hafizahullah, faites que parmi les points incontestables dans les règles de la jurisprudence, il y a la valorisation des intérêts et le accroissement. Il y a aussi le repoussement du mal et son amoindrissement. La législation ne nous a ordonné d'écouter et d'obéir aux dirigeants injustes, sauf qu'il y a en cela l'intérêt du peuple impuissant qui ne peut rien contre les dictateurs inéquitables. Ce peuple, de par son écoute et obéissance, repousse le grand mal par le moindre mal. Qala Ibn Abdul Barr fi at-Tamhid. لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه والأصل تشهد والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. انتهى كلامه. إن هذا البر يجد عن صنفاج التمهيد que la rébellion et la révolte contre les dirigeants injustes conduisent à un grand mal ou méfait. Parce qu'il y a dans le fait de s'opposer et de se rebeller aux dirigeants la transformation de la sécurité par la peur. Et parce que cela va conduire à l'effusion du sang et à la propagation de la corruption sur terre. Et cela, c'est-à-dire ce méfait-là, est plus grave que de patienter son iniquité et sa perversité. Le fondement de la religion, la raison et la raison témoignent qu'il est meilleur de délaisser le grand mal et opter pour le moindre mal. Wa qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah wa li hadha kana al-mashhur min madhhab ahli as-Sunnah annahum la yaruna al-khuruj 'ala al-a'imma wa qitalahum bis-sayf wa in kana fihim dhulm كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيدة عن النبي لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فيدفع أعظم المفسدة الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجه من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل بالغ وكل بار كيفما كان ولا أمر بقتال الباغين ابتداء انتهى كلامه. الشيخ الإسلام ابن تيمية قال الحافظ بن قاض أجي dans son ouvrage منهاج السنة النبوية il dit c'est pourquoi il est connu de la voix des gens de la sunna qui n'approuvent pas la rébellion contre les dirigeants, ni le fait de les combattre avec les armes, même s'ils sont injustes. Et c'est d'après ce que démontrent les récits prophétiques authentiques et rapportés du prophète, prier exhortation d'Allah sur lui. Ceci parce que la corruption qui découle de ces révoltes et émeutes est plus grande que la corruption qui découle des injustices orchestrées par ces dirigeants en absence de révoltes et émeutes. L'on doit donc repousser le plus grand de ces deux mots, à savoir injustice de dirigeants et révolte contre eux. Et opter pour le moindre mal qui est quoi? Abstinence des révoltes et obéissance aux dirigeants injustes. Il se pourrait que vous ne trouveriez point un groupe qui s'est rebellé contre un détenteur de pouvoir ou encore un dirigeant sans qu'il en découle de leur rébellion un mal plus grand que le mal qu'ils ont repoussé. Et Allah n'a pas ordonné de combattre tout injuste et dictateur à tort et à travers. Et Allah n'a point ordonné d'initier en premier lieu la révolte contre les dictateurs. Fin de citation. Wa qala al-imam al-qayyim fi ilam al-waqi'in fa idha kana inkar al-munkar yastalzim ma huwa ankar min wa abghad ila Allah wa rasulihi fa innahu la yasuhu inkaru wa in kana Allah yubghidu wa yamkutu ahlihi وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر انتهى. الإمام ابن القيم قال الفصل في ريكورد dans son ouvrage إعلام الموقعين il dit si le reniement d'un mal entraîne à ce qui est pire et plus mauvais auprès d'Allah et son messager, en ce moment régner ce mal devient interdit, même si à l'origine Allah déteste ce mal et ses auteurs. Nous avons à titre d'exemple le fait de réprouver les rois et dirigeants et en se rebellant contre eux. Cette sorte de rébellion est en vérité la source de tout mal et de toute calamité jusqu'au jour dernier. Fin de citation. Allahu Akbar. Et le troisième point, il s'agit ici, n'est-ce pas, de réfutation aux ambiguïtés. De réfutation des ambiguïtés. Comme l'a énuméré l'auteur, à savoir le cheikh Abu Omar, Qasim Omar, hafizahullah. Il dit, les gens du faux ne se tranquillisent pas et ne se reposent pas après avoir lu tous ces textes tangibles et irréfutables du Coran et de la Sunna et de tes prédécesseurs, sans chercher à créer des amalgames chez les gens en propageant leurs ambiguïtés d'égarement et leurs opinions corrompues afin de refouler les gens de la vérité et de semer le désordre, n'âme qui consume ou encore dévore toute chose fraîche ou sèche. Parmi les sujets sur lesquels les harakiyoun, à savoir les activistes du mouvement islamique, les ikhwan muslimin et autres, s'activent à injecter les ambiguïtés, il y a le sujet de al-hakimiyya, qui consiste chez eux à considérer le droit à la gouvernance ou au jugement comme une autre branche du tawhid, parce que chez eux, c'est un pivot et fondement de leur idéologie. C'est donc le pourquoi ils s'efforcent en empruntant plusieurs voies et méthodes rusées pour propager les ambiguïtés conçues par les premiers dissidents, al-Khawarij, hein, et les dissidents contemporains sur ce sujet. Et c'est en se référant sur le récit faible, les propos irréguliers et décousus et les compréhensions inexactes. Mais les gens de la science demeurent aux aguets. Mais les gens de la science, les al-sunna, les salafiyoun, les rasikhouna fil ilm, les gens de la science demeurent aux aguets. Ils les observent, démolissent les ambiguïtés rusées, dévoilent leurs vices et faillent aux gens. Il y a plusieurs ambiguïtés que véhiculent ces activistes, ces harakiyoun, sur le sujet de l'écoute et de l'obéissance aux dirigeants. Malgré les multiples preuves textuelles avancées sur ce sujet par les plus prédécesseurs et le consensus se réunit dessus, mais seulement leurs esprits remplis de passion, d'animosité et de haine ne veulent autre que l'injection de ces ambiguïtés sur le commun des gens afin de les embrouiller et de les embellir le faux. Le cheikh dit par la suite, à savoir l'auteur, le cheikh Abu Omar, Qasim ibn Omar al-Qar'ani, Il dit par la suite, je vais me suffire de relater quelques ambiguïtés. Il est refuté. Et il dit, n'est-ce pas, je vais me suffire de relater quelques ambiguïtés et les réfutations des savants de l'islam à propos. Première ambiguïté qu'ils avancent, au nom de quoi l'infaillibilité du dirigeant. Ils disent qu'il n'appartient pas au dirigeant d'être désobéissant à Allah, inéquitable, injuste et pervers. C'est ça leur ambiguïté. Et le chef Qasim ibn Omar al-Qara'ani dit, الشبهة الأولى لا première ambiguïté il dit أن الحاكم الشرعي يجب أن لا يكون يجب أن لا يكون صاحب معصية ولا ظالم ولا فاسق وأمدت في ذلك ما أخرج أحمد أن معاوية كتب إلى عثمان إن عبادة بن صامت قد أفسد على الشام وأهله فلما جاء عبادة إلى عثمان قال لو سمعت النبي يقول إنه سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فلا تعت لمن عصى الله تبارك وتعالى فلا تعتلوا بربكم إلى أجمع في سلاء الورسي لحديث كي رابط لإمام أحمد دابر معاوية كلا يكري عثمان عن جزان سيسي C'est que Ubad ibn Samit a semé la corruption sur la grande Syrie et ses habitants. Lorsque Ubad arriva près de Othman, Othman lui dit, j'ai entendu le prophète prier salutation d'Allah dire que certes, après moi, vont vous diriger certains hommes. Certes, après moi, vont vous diriger certains hommes qui vous feront découvrir ce que vous détestez. Et vont vous interdit ce que vous approuvez. Point d'obéissance à celui qui désobéit à Allah, le Très-Haut. Et le chef, il réfute à cette ambiguïté. Il dit réfutation. Premièrement, ce récit contredit les nombreux récits incessants à ce sujet. Et contredit aussi le consensus réuni dessus. Ça, c'est la première réfutation. Deuxièmement, il dit, ce récit est faible et non authentique. Il a été jugé faible par le savantissime à l'imam al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Bon, c'est fini, n'est-ce pas, avec cette ambiguïté qui a été réfutée. Et la deuxième ambiguïté, Ashubuha Asaliya, hadith, Umm al-Husayn, vous avez compris, il dit, qu'Allah Rasulullah, in umira alaykum abdun mujadda, yakudukum bi kitabillah, fasma'u lah wa ati'u. Faqalu mafhuma mukhalafa, لهذا الحديث أنه إذا لم يقد ما بكتاب الله فلا سمع ولا طاعة. الحديث أمه الحسين كتب لك الأنبياء الله prier salutation d'Allah sur lui a dit si un esclave handicapé devient votre chef et vous dirige avec le livre d'Allah écoutez-le et obéissez-le. Maintenant ces harakiyoun ces mobtadi ala ces khawarij et autres ils argumentent en disant après avoir mentionné ce récit que son sens contraire est que point d'écoute et plein d'obéissance aux dirigeants qui ne nous dirigent pas avec la parole d'Allah. Maintenant, le cheikh Abu Omar, il va refuter et dit, le cheikh Qasim ibn Omar ibn Harun al-Qara'ani, hafizahullah, il dit réfutation. Premièrement, la réponse à cette ambiguïté est que la compréhension qu'ont eu certaines personnes contredit le sens que formule le texte du hadith. Et la règle dit que, dans ce cas, on dévance le sens que formule le texte, mais sur la compréhension des gens. Deuxièmement, ce hadith est dans sa généralité. Ce hadith est dans sa généralité. Ce qui est connu depuis des siècles précédents est que les gens ont toujours dirigé avec la parole d'Allah. Et voilà comment le cheikh, il a refuté cette ambiguïté également. Troisième ambiguïté, Ashubwa Asalisa, An al-Hakim al-Levi, Yusma alayhi wa yuta, Hu al-Hakim al-Am, al-Muslimin fil-Alam, Kullihi. وبما أنه لا يوجد اليوم حاكم عام للمسلمين فلا سمع ولا طاعة لأحد في الدول الإسلامية ودليلهم حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله قال تسمع للأمير الأعظم وإن ضرب ظهر وأخذ مالك وإن ضرب بكذلك بكذلك il dit que le dirigeant qui mérite d'être écouté et obéi est le dirigeant général des musulmans dans tout le monde étant donné qu'il n'y a pas de dirigeant général à la tête des musulmans point d'écoute et d'obéissance à l'un des dirigeants des pays islamiques. Et le argument est le hadith de Huzaifa, qu'Allah soit satisfait de lui, que l'envoyé d'Allah priait sa réception d'Allah sur lui a dit, écoute, le dirigeant suprême, même s'il frappe ton dos et prend injustement tes biens. Le cheikh Abou Omar Qasim, Omar Haroun al-Qara'ani, il va refuter à cette ambiguïté, il dit réfutation. Premièrement, nous le disons que les textes qui sont venus sur l'écoute et l'obéissance du dirigeant sont dans la généralité. Et rien de ces textes n'est venu différencier entre les petits États, tenez-vous tranquille, entre les petits États et un grand État. Donc, celui qui va différencier peut apporter la référence, il doit apporter sa preuve. Deuxièmement, le sens profond du hadith est que, écoute le dirigeant suprême, même du pays où tu te trouves, et non le dirigeant suprême de tous les pays, de toutes les nations du monde. Troisièmement, les pays musulmans se sont émiettés depuis des siècles, et chacun des pays possède un dirigeant indépendant. Et les savants de l'islam ont fonctionné ainsi sans dissocier entre eux. Et l'auteur, à savoir le cheikh Abou Omar Qasim ibn Omar al-Qara'ani, il dit notre cheikh, le minin Mohamed ibn Salah al-Uthaymeen, dans son ouvrage Al-Sharh al-Mumti, il faut noter ici, barakallahu fikum, que l'auteur de cet ouvrage, à savoir le statut du gouverneur tel que légiféré en islam, qui est, n'est-ce pas, yani, ce cheikh tchadien, le cheikh Qasim ibn Omar, il faut noter que il est l'un des élèves de l'éminent, le savantissime Ibn Uthaymeen. Et le cheikh Qasim Ibn Omar al-Qara'ani al-Tashadi, il a étudié chez le cheikh al-Uthaymeen durant 4 ans. 4 ans entre les mains du cheikh al-Uthaymeen. Voilà pourquoi il a dit ici notre cheikh. C'était juste, n'est-ce pas, une parenthèse. Mais le cheikh al-Uthaymeen dit dans Sharh al-Mumti, le propos de l'auteur d'où il dit l'imam, il s'agit du dirigeant suprême dans un pays. On ne conditionne pas qu'il soit un dirigeant général pour les musulmans du monde, parce que l'imamat suprême a péri et disparu depuis très longtemps. Le prophète, priez salutation d'Allah sur lui, a dit, même si un esclave d'Abyssinie devient votre chef, écoutez-le et obéissez-le. Donc, si une personne devient chef quelque part, automatiquement il devient gouverneur général. Et ses propos deviennent exécutables. Et ses ordres doivent être exécutés. À l'époque du Khalifa Othman, qu'Allah soit satisfait de lui, le monde musulman a commencé à se détacher. Par exemple, Ibn Zubayr était dirigeant à Hijaz, les enfants de Marwan dirigeaient à Sham, Murta ibn Ubayd et autres en Irak, dont la population musulmane s'est détachée. Les savants de l'islam depuis lors, jusqu'à nos jours, n'ont cessé de croire avec conviction l'allégeance et l'obéissance de celui qui devient chef quelque part, même si le khalifa de ce dernier n'est pas général. À partir de là, vous découvrez un égarement qui a vu le jour, qui stipule que point de dirigeant pour les musulmans à nos jours, point d'allégeance. Nous implorons Allah de remédier à notre situation. Je ne sais vraiment pas où ces gens voudraient que les gens vivent dans un désordre sans un dirigeant, ou ils veulent qu'on dise que chacun est responsable de lui-même. Cela, s'il meurt dans cet état, sans allégeance, leur mort sera semblable à la mort de quelqu'un de la période de l'ignorance al-jahiliya. Qu'Allah nous en préserve, parce que ce sur quoi sont les musulmans depuis très longtemps est que celui qui prend le pouvoir, soit par élection ou par coup d'état, dans une contrée de ce monde devient dirigeant de cette contrée. Quatrième ambiguïté. الشبهة الرابعة إذ أن الحاكم المسلم الذي لا يحكم بما أنزل الله يكفر والكافر لا يكون ولي أمر للمسلمين بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذ que le dirigeant musulman qui ne juge pas avec ce qu'a révélé Allah devient mécréant et qu'il n'appartient pas à un mécréant de diriger les musulmans se basant sur le verset, un verset qui n'a même pas compris le sens, hein. Se basant sur le verset où dit Allah, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà, les kafiroun, les mécréants de moins de degrés. Et le cheikh Abou Omar, il va refuter, il dit dans n'est-ce pas réfutation. La réponse à cette ambiguïté est que les gens, les plus savants de l'exégèse du Coran en général, et de ces versets en particulier sont les compagnons du messager d'Allah, prier salutation d'Allah sur lui. Il est rapporté de façon approuvée du savant en exégèse de cette communauté, le noble compagnon Abdelhem Abbas, car se satisfait de lui, sur ce verset, Namki l'expliqua en disant,
Man jahada ma anzal Allah faqad kafar. Wa man aqarra bihi wa lam yahkum bihi fa huwa zalimun fasiqun. Akhrajahu at-Tabari fi Jami' al-Bayan bi isnad sahih wa silsila al-ahadith as-sahiha li al-Albani.
Ibn Abbas dit que celui qui renie ce qu'Allah a fait descendre devient mécréant, et celui qui l'approuve sans juger avec est un injuste et pervers. Rapporté par At-Tabari, donc à Jami al-Bayan, une chaîne de transmission bonne. Il faut se référer également, aussi à l'ouvrage ici, la Sahiha du Cheikh al-Albani.
وقال طاووس عن ابن عباس ايضا في قوله من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال ليس بالكفر الذي يذهبون اليه اخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاه باسناد صحيح وسلسلة احاديث صحيحه للالباني
طاووس rapporte d'après ابن عباس sur son explication de la parole d'Allah d'où il dit et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre les voilà les kafirs les mécréants de moins de degré il dit il ne s'agit pas de la mécréance à laquelle les dissidents, les khawarij, n'en font allusion. Qu'est-ce que dit Abdelhem Abbas? Je répète. Il ne s'agit pas de la mécréance à laquelle les khawarij, les dissidents, font allusion. Rapporté par Al-Marwazi dans son livre Ta'zim Qadr al-Salah, une chaîne de transmission, se référer aussi à l'ouvrage ici là, Sahiha de Cheikh Al-Albani. Il parle ainsi l'auteur et dit, notre cher l'éminent Mohamed Ibn Salah al-Husseinin, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son ouvrage At-Tahdhir min al-Fitan, il dit, mais dès lors que ce récit n'a pas pris à ces personnes séduites par le takfir, qui sont séduites par le takfir, ils se sont mis à dire ce récit n'est pas authentique, et que ce récit n'est point venu authentiquement d'une Abbas, ils disent qu'ils n'acceptent pas ce récit. Il me suffit comme argument que les érudits connaisseurs, tels que Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim et autres que, ont tous accepté ce récit après vérification. On fait bon usage et l'ont transmis, donc le récit est authentique. Il a été publié dans le journal Al-Sharq Al-Awsat de l'année 1416 de l'Égypte, dont ça fait 25 ans aujourd'hui, de l'érudit Abdelaziz Ibn Baz, d'où il dit, j'ai lu la réponse utile et précieuse de son éminent, le cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, rahimahullah, publié dans le journal Al-Sharq Al-Awsat, et le journal des musulmans, où il répond à la question de celui qui demande au sujet de celui qui, sans aucun détail, fait le takfir, qui est presque du mécréant, celui qui juge par autre en dehors de ce qu'a révélé, J'ai trouvé sa parole précieuse. C'est le Cheikh Ibn Baz qui dit ça, il a prouvé, n'est-ce pas, la réponse de Cheikh Al-Albani. Il dit, j'ai trouvé sa parole précieuse, et qu'il a certes dit vrai. Il a entrepris la voie des croyants et a été clair en disant qu'il n'est pas permis à qui que ce soit de traiter de mécréant un musulman qui juge pas autre en dehors de ce qu'Allah a révélé pour un acte posé sans toutefois savoir si cette personne l'a rendu de lui-même licite au détriment de l'interdiction d'Allah ou pas. Et le chef, en répondant, s'est appuyé sur ce qu'on rapporte d'Ibn Abbas et d'autres parmi les pires prédécesseurs qu'Allah soit satisfait d'eux. Il n'y a aucun doute que ce qu'a mentionné le Cheikh Al-Albani comme exégèse des versets d'où Allah dit Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les kafirun, c'est-à-dire les mécréants de moins de degrés. Et d'où Allah dit, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les valimous, c'est-à-dire les polythéistes, les injustes de moins de degrés. Et d'où Allah dit, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des fasikoun, à savoir les pervers de moins de degrés. La sourate, la table servie, verset 44. 45 et 47. Et ce, qu'a dit le cheikh Al-Albani est vrai. C'est le cheikh Ibn Baz qui approuve cela. Il dit, et ce qu'a dit le cheikh est vrai et clair, que le kufr, la mécréance, est de deux types, grand degré et moins de degré. Tout comme l'injustice est de deux types, grand degré et moins de degré. Et ainsi, la perversité est de deux types, grand degré et moindre degré. Donc celui qui trouve licite, de juger par autre en dehors de ce qu'Allah a révélé, ou trouve licite la fornication ou l'adultère, l'usure et autres parmi les interdictions à l'unanimité, à cette mécrue d'une mécréance de grand degré. Et celui qui fait ces actes sans pour autant les rendre licites, aura mécru d'une mécréance de moindre degré, ou est injuste d'une injustice non de moindre degré, ou est pervers d'une perversité de moindre degré. Et l'auteur, il dit par la suite, à savoir le cheikh Qasim, Hafidhullah, cheikh Qasim Omar Al-Qar'ani, il dit, il y a d'autres ambiguïtés que je n'ai pas mentionnées par manque de temps, et que les savants de l'islam ont refuté d'après les preuves du Coran et de la Sunna. Et celui qui souhaite avoir plus de précisément sur ce sujet, je l'envoie lire l'ouvrage écrit sur ce sujet intitulé Al-Imam al-Udhma Ta'asulat Al-Sunna Al-Salafiyin Warad Al-Shubahat Al-Mukhalifin du Cheikh Ina Al-Mujahid Abdelaziz Ibn Reis Al-Reis Hafidhullah Ta'ala Wafaqah Wa Sadad Al-Khuta. Il envoie ici, n'est-ce pas, lire le livre Al-Imam al-Udhma édité par notre Cheikh Abdelaziz Reis, qu'Allah le préserve et le raffermisse. C'est un ouvrage rempli d'arguments solides des gens de la Sunna et des réfutations des ambiguïtés véhiculées par des égarés. Le quatrième point, en conclusion, le cheikh, n'est-ce pas, Abu Omar Qasim ibn Omar ibn Haroun al-Qar'ani, Al-Tashari, qu'Allah le préserve, il clôture donc, n'est-ce pas, cet ouvrage avec cette invocation, il implore Allah subhanahu wa ta'ala en disant, Allah, أسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه كما أسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيننا على شر أنفسنا وشر الشيطان إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا جنبوا الله de nous présenter le vrai tel qu'il est, de nous faciliter par la suite son suivisme. Il dit qu'il implore en effet également, n'est-ce pas, Allah, de nous dévoiler le faux tel qu'il est, puis de nous en épargner. Il dit, comme j'implore Allah de nous doter de la science utile et des œuvres pieuses, et de nous inspirer la guider, et de nous aider à combattre le mal de nos âmes et celui incité par le Satan, prier la salutation d'Allah sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. Cela avait été dirigé par notre frère, le Cheikh Qasim Ibn Omar Al-Qur'ani, et cela est traduit de l'arabe en français le 6 Ramadan de l'an 1441 de l'Égypte, correspondant au 29 avril 2020 à Khartoum, au Soudan, par Jifenjou Mohamed Nouruddin Abou Neissa Al-Bamouni Al-Kamerouni. Hada wa barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.